France Inter.
Aujourd'hui, les volcans d'Auvergne sont-ils en train de se réveiller ? Raconté par
Guillaume Boudoir, professeur en volcanologie à l'université Clermont-Auvergne et chercheur associé à l'INGV de Palerme.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Pendant longtemps, le Massif central a été considéré comme une terre volcanique endormie. Les dernières éruptions datent de quelques milliers d'années, comme celle du lac Pavin, il y a environ 6700 ans. À l'échelle humaine, ces volcans sont donc silencieux. Mais depuis quelques temps, les instruments racontent une autre histoire grâce au déploiement de nouveaux réseaux sismologiques très sensibles. Des chercheurs ont détecté, sous certains volcans du Massif central, des séismes inhabituels. Ils sont rares, de faible magnitude et surtout très profonds, autour de 25 à 35 kilomètres près de la limite entre la croûte et le manteau terrestre. Ces séismes ont une signature bien particulière en sismologie volcanique. On les appelle des séismes longs et profonds. On les observe sous de nombreux volcans actifs ou potentiellement actifs dans le monde. Entre 2021 et 2024, une dizaine de ces événements ont été identifiés sous la chaîne des puits, notamment sous le Puy de Dôme et le Pariou, et plus ponctuellement près du lac Pavin. Ils se produisent par petites salves sur quelques minutes et non comme des secousses isolées. Ces signaux n'annoncent pas une éruption, mais ils indiquent que très en profondeur, les racines des systèmes magmatiques du Massif central sont encore actifs. Que signifie cette activité discrète? Comment l'interpréter? Et que nous apprend-elle sur l'état réel de volcans que l'on croyait définitivement assoupis? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Voici une carte qui vous montre les principaux volcans de la chaîne des puits. Il y en a en fait une centaine, alignés sur de grandes fractures de direction nord-sud. Évidemment, tous ces volcans ne sont pas spectaculaires du fait qu'ils ne sont plus actifs. Mais n'oubliez jamais que l'homme préhistorique a certainement vu de très grandes éruptions dans la chaîne des puits. Et si ces volcans sont calmes pour l'instant, c'est parce que la zone est stable. Mais un géophysicien français a prouvé récemment que sous cette chaîne des puits, à quelques centaines de mètres de profondeur seulement, il y a encore des réservoirs de magma, probablement des roches chaudes.
Et là, c'était en 1978, la voix de Maurice Kraft, volcanologue. Bonjour Guillaume Boudoir.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. En juin dernier, avec des collègues internationaux, vous avez signé dans la revue Geophysical Research Letters une publication sur les séismes des volcans du Massif central. Cette publication n'est pas passée inaperçue parce que c'est vrai, elle vient quand même un petit peu bousculer l'impression que nous avons de ces volcans d'Auvergne endormis à tout jamais. Quand on dit d'ailleurs volcans d'Auvergne, de quel ensemble d'ailleurs est-ce qu'on parle exactement? Et qu'est-ce qui fait l'originalité du Massif central dans le paysage volcanique français?
Alors, c'est vrai que quand on parle de volcanisme en Auvergne, il faudrait parler plutôt de volcanisme du Massif central, comme vous l'avez évoqué. C'est une histoire géologique assez longue hein, du volcanisme dans le Massif central. On en a depuis près de plus de 50 millions d'années. Hein. Donc, c'est une histoire très très longue avec près de 15 provinces volcaniques qui sont référencées sur l'ensemble du Massif central, depuis effectivement la chaîne des puits jusqu'à la zone du Cap d'Agde hein, vers Montpellier, où on a des témoins d'activités volcaniques assez récentes. Quand je dis récent, c'est
À l'échelle géologique. Exactement. Hein, absolument. Voilà.
Ouais. Donc, le cadre de cette étude-là, il s'est porté principalement c'est un déploiement de stations sismiques sur l'ensemble du Massif central.
Ouais.
Et les signaux que vous évoquiez qui ont été détectés plus particulièrement au niveau de l'Auvergne, c'est-à-dire là où on a trois, voire quatre provinces volcaniques majeures qui sont la chaîne des puits, les Monts d'Or, le Cézallier et le Cantal.
Ouais. Voilà. Alors justement, on entend souvent que ces volcans sont éteints ou endormis. Hein. C'est un petit peu l'image que nous avons de ces volcans d'Auvergne. Dans votre métier, qu'est-ce que « dormant » veut dire exactement quand on parle de volcan alors?
Un volcan endormi, c'est un volcan qui n'a pas eu d'éruption depuis plusieurs dizaines, centaines d'années, voire millénaires. En fait, la distinction, elle est plus à faire entre ce qu'on considère un volcan actif et un volcan qui n'est pas actif.
C'est-à-dire qu'on a encore des volcans actifs en Auvergne?
Exactement. Mmh. Si on regarde les définitions, la définition qui est faite à l'échelle internationale d'une province volcanique active, il y a deux paramètres qui sont fondamentaux. Il faut en remplir l'un des deux. Le premier, c'est d'avoir déjà eu une éruption à l'Holocène, c'est-à-dire depuis moins de 10 000 ans.
Mmh.
On coche cette case-là.
C'est le cas.
C'est le cas, exactement, puisque le Pavin, ou même la Vache, les puits de la Vache, la Sola, sont des éruptions qui sont beaucoup plus récentes de 10 000 ans. La deuxième condition, sinon, c'est d'avoir des témoins d'activités magmatiques toujours résiduelles. Et là, on vient notamment de le confirmer assez récemment avec ces signaux. Donc on coche, on va dire, les deux cases pour dire que la province volcanique est toujours active.
C'est ça. Donc quel terme il faut employer exactement, si on veut être scientifiquement exact?
Des volcans, des provinces volcaniques actives, mais en état de dormance, de quiescence actuellement.
Guillaume Boudoir, on va reparler justement du dernier épisode éruptif clairement daté, c'était donc le lac Pavin. Pourquoi est-ce que cette date revient tout le temps? Alors, c'est quoi, 6700 ans à peu près, c'est ça?
Selon les dernières datations qui ont été faites, on est aux alentours de 6700 ans. Alors pourquoi est-ce qu'elle revient de manière assez récurrente? Parce qu'en fait, en France métropolitaine, c'est la dernière éruption qui a été datée sur le territoire. Et on pourrait peut-être même aller un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est la dernière éruption sur cet ensemble qu'on appelle le Rift Ouest européen, auquel appartient la chaîne des puits, et qui s'étend depuis l'Espagne jusqu'à la République tchèque. Le Pavin, c'est la dernière éruption sur cet ensemble à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour, on démontrera le contraire, mais pour le moment, c'est la dernière éruption.
Donc, c'est un repère majeur quand même, quand on veut étudier ces volcans.
Oui, et puis ça prouve que 6700 ans, c'est pas loin non plus. Donc, on l'a vu avec l'éruption qu'il y a eu à Mayotte il y a quelques années, ou même dans l'actualité récente au mois de décembre, avec le réveil de ce fameux volcan en Éthiopie qui n'était pas en train d'éruption depuis plusieurs millénaires. On voit que l'échelle du millénaire, en fait, signifie qu'on reste sur des provinces qui sont actives.
Alors concrètement, un volcan actif en Auvergne, est-ce que ça laisse des indices au présent, même sans éruption alors?
Même, on va dire, avant l'étude en question que vous avez évoquée tout à l'heure, on a une province, l'Auvergne est marquée par de nombreuses émergences thermominérales. On a beaucoup de sources, on a de l'hydrothermalisme. Mmh. D'ailleurs, ça a fait la richesse de certaines communes comme Vichy, comme Roya, qui sont connues pour leur activité thermale. Donc on a un flux de chaleur, on a des émanations gazeuses, on a des résurgences qui montrent qu'il y a toujours une activité. Donc on va dire qu'on ne tombe pas dénu aujourd'hui avec ces nouveaux résultats. Disons que c'est plus une confirmation de quelque chose où on se doutait depuis...
Et donc les indices, ils sont sismiques en particulier ou...
Alors, sur ces dernières années, oui, les indices sont principalement sismiques, effectivement. Ouais.
On va y revenir, puisque c'est l'objet aussi de cette publication. Si vous deviez décrire l'architecture d'un système volcanique sous la chaîne des puits, justement, Guillaume Boudoir, sur quels étages, en fait, travaillent les scientifiques pour pouvoir apporter un petit peu d'eau au moulin de la science?
Vous avez différents étages. Il y a déjà un étage à grande échelle et c'est un peu le but de ce projet, avec ce déploiement de stations sismiques où l'idée première était d'obtenir ce qu'on appelle une tomographie de la croûte et du manteau, donc c'est-à-dire une image à grande échelle en allant à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur pour effectivement essayer de comprendre, d'identifier les zones chaudes, des zones d'anomalie.
Ouais.
Donc là, on est plus sur de la géodynamique à grande échelle. Ensuite, après, vous avez toute une panoplie de spécialités en volcanologie qui vont s'intéresser à des choses qui peuvent être sur des échelles beaucoup plus petites. On va regarder par exemple comment s'organise l'architecture du système magmatique sur les derniers kilomètres, sur la dernière dizaine de kilomètres, où sont les chambres magmatiques. Donc on va dire que les outils, les spécialités vont définir en fait l'échelle qu'on va essayer d'étudier.
Pourquoi pendant longtemps alors on a eu l'impression qu'il ne se passait rien sous nos pieds en Auvergne, scientifiquement parlant? Qu'est-ce qui a changé pour que précisément on puisse apporter d'autres informations et qu'on perçoit vraiment cette activité des volcans?
Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont évolué. Tout d'abord, il y a le premier critère qui est un critère technologique. C'est-à-dire que cette tomographie dont je vous parlais, sismique, il y a déjà une tomographie qui a été réalisée il y a plus d'une trentaine d'années.
Mmh. Voilà.
Sauf qu'aujourd'hui, on a des méthodes et des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin et de le faire mieux, on va dire entre guillemets. C'est pour ça qu'il y a une réactualisation qui est prévue à travers ce projet qui nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. C'est pour ça que ce qu'on identifie aujourd'hui ne signifie pas que c'était absent il y a 10, 20 ans, 30 ans ou 100 ans. Ça, on ne le sait pas et malheureusement, on ne le saura probablement jamais.
On n'avait pas les outils, en fait, c'est ça?
On n'avait pas les outils pour le voir. Je pense que le deuxième critère qui explique aussi cette problématique, c'est que pendant peut-être trop longtemps, on a pris un peu à la rigolade le sujet des volcans d'Auvergne. Alors, pas totalement, mais je veux dire, comme la question que vous évoquiez tout à l'heure l'a abordé, c'est-à-dire, est-ce que ces volcans sont endormis? On a toujours eu un plus ou moins un sourire lorsque cette question était posée. Je pense que depuis une dizaine d'années, il y a une réelle prise de conscience grâce justement à cet apport technologique qu'on peut aller beaucoup plus loin pour répondre à ces questions-là. Et plus on avance, plus on découvre des choses et plus on se rend compte qu'en fait, cette question doit être prise beaucoup plus au sérieux qu'elle a pu l'être par le passé.
C'est ça, on rigole un peu moins en fait maintenant.
Ouais, je disais qu'on est plus responsable.
C'est ça, on est plus lucide sur la réalité des choses. Et plusieurs scénarios sont possibles, on va en parler avec vous. À quoi sert ce programme Massive exactement? Vous y participez, Guillaume Boudoir, pour le décrire simplement aux auditrices et aux auditeurs, de quoi il s'agit?
Alors le programme Massive, donc, c'est un projet financé par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui est porté par nos collègues grenoblois du laboratoire ISTER et qui implique plusieurs laboratoires en France, dont à Toulouse et à Clermont-Ferrand. Et l'idée, c'est donc, il y a une double idée derrière ça, c'est-à-dire de déployer plus d'une centaine de stations sur l'ensemble du Massif central, de stations sismiques, pour réaliser cette tomographie.
Réseaux sismologiques, en fait.
Exactement, hein. Oui. Ouais. Principalement, en tout cas, c'est basé sur un réseau sismologique, et donc pour avoir une imagerie à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur du manteau et de la croûte. Hein.
Ouais.
On expliquera peut-être pourquoi par la suite, pourquoi c'est un intérêt géodynamique. Et puis, il y a une deuxième partie qui est prévue, cette fois avec plus de 600 capteurs. C'est des petits capteurs à bas coût, facilement déployables, qui ont été déployés d'ailleurs au mois d'octobre-novembre sur la chaîne des Puits et le massif des Monts d'Or, donc on est sur une échelle beaucoup plus réduite, et qui visait à avoir maintenant une image encore plus précise, parce que cette fois on veut vraiment essayer de comprendre où étaient par exemple les anciens réservoirs magmatiques. Est-ce qu'il y a encore des poches éventuellement liquides? Donc là on aura une résolution beaucoup plus fine, par contre on aura une profondeur d'investigation beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on ira probablement à une vingtaine de kilomètres de profondeur.
C'est comme poser un peu un stéthoscope sur le cœur d'un patient, en fait, c'est un peu ça?
C'est exactement ça. En volcanologie, on fait souvent l'analogie avec le secteur médical. Vous avez effectivement cet aspect vibration lié à la sismologie. Vous avez l'aspect déformation qui pourrait être l'analogue de la respiration d'un patient. Et puis la prise de sang pour la géochimie des gaz ou des fluides, par exemple.
Pourquoi l'Auvergne, d'ailleurs, n'est pas uniquement des volcans spectaculaires qu'on pourrait étudier ailleurs? Qu'est-ce que le Massif central permet de comprendre de spécifique? Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'inhérent à la région?
Alors, le Massif central a une diversité phénoménale de dynamiques éruptives, de produits éruptifs en termes de chimie, en termes de texture. En gros, et je pense que Taziev le disait il y a déjà plusieurs décennies, où je résume assez rapidement sa pensée, mais il disait, si j'avais découvert en fait le Massif central et la chaîne des Puits il y a quelques années, j'aurais gagné un temps fou pour comprendre le phénomène volcanique.
On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure, parce que ça rejoint évidemment ce que vous dites.
Et je trouve qu'effectivement, on a cette diversité qui est phénoménale et d'ailleurs qui a été reconnue par l'UNESCO, puisque la chaîne des Puits et la faille de Riemann sont maintenant inscrits au patrimoine de l'UNESCO pour cette diversité qui représente sur une très petite surface une variabilité énorme de processus éruptifs sur lesquels il faudrait courir à travers le monde si on voulait réussir à regrouper ce catalogue.
Guillaume Boudoir, on va voir dans quelques instants ce que vous avez enregistré exactement avec vos collègues sur cette chaîne des Puits, sous cette chaîne en particulier, et comment sait-on que ça n'est pas un séisme comme les autres, c'est ce qu'on verra dans un instant, et puis vous répondrez également aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Réveil merveilleux ce matin au-dessus des volcans endormis, un lieu unique au monde, 80 volcans alignés sur une bande de 30 km de long. Ici, ces volcans, on les appelle des puits.
Le puits de Dôme là-bas, le Pariou. Donc la nature fait quand même bien les choses parce qu'elle a placé les plus beaux au centre. Là on a de l'apaisement, on est émerveillé par la nature et on se rend compte qu'il y a bien longtemps, on va dire entre 7000 et 95 000 ans parce que c'est leur âge, et ben ça devait être beaucoup moins tranquille quand même.
Voilà, ici Auvergne, reportage donc sur les volcans avec Marie Morin et Raphaël Moin à l'instant. Et Guillaume Boudoir, vous êtes notre invité volcanologue à Clermont-Ferrand. On parle avec vous donc de ces volcans pas si endormis que ça et l'étude que vous avez donc signée en juin dernier avec vos collègues sur les séismes profonds de longue période qui ont été détectés. Comment il faut l'interpréter ça, cette expression? Qu'est-ce que ça désigne dans un sismographe alors?
Alors, vous avez différents types de séismes qui peuvent être enregistrés par des manifestation. Généralement, on entend souvent parler de séismes volcano-tectoniques qui sont liés à la propagation de magma. Par exemple, on a récemment eu une éruption au Piton de la Fournaise, où on a eu une crise sismique juste avant que le magma arrive à la surface. Et dans ce cas-là, on a des séismes qui correspondent à la fracturation de la roche lorsque le magma remonte. Donc ça, c'est des choses qu'on observe communément sous des volcans qui sont fréquemment en éruption.
Donc ça, c'est vraiment inhérent au volcan lui-même, en
Exactement,
fait.
Exactement, hein. Oui. Alors... inhérent, non, disons que c'est de la sismicité liée par de la fracturation, mais en domaine volcanique. C'est-à-dire que ça a une signature qui est assez similaire à ce qu'on pourrait avoir sur des séismes purement tectoniques.
Voilà. Mais ça se passe dans le volcan, en fait.
Voilà, mais là, ça se passe...
C'est une activité du volcan.
Exactement, c'est une activité liée au volcan. Là, dans le cadre de cette étude-là, les signaux qui ont été détectés, c'est des signaux qui sont assez atypiques. C'est ce qu'on appelle des DLP pour deep longue période, donc des séismes profonds à longue période. Et ils sont caractérisés, justement, par une fréquence relativement faible quand on regarde le signal sur les sismogrammes. Donc, il y a plusieurs...
Donc c'est quoi, les basses fréquences, justement?
Exactement,
c'est ce
ils
qu'on
sont
entend.
Plutôt caractérisés par des basses fréquences. Et ils ont lieu très en profondeur. On est, comme vous le disiez tout à l'heure, à peu près 25-35 km de profondeur. Ces séismes-là, pour les interpréter, on considère, enfin la communauté scientifique considère, qu'ils sont liés à de l'activité magmatique, et principalement au dégazage du magma. Pour expliquer justement ces fréquences assez particulières. Donc lorsqu'on les détecte, eh ben on est en droit de s'attendre à ce que la source soit liée justement à la présence de magma toujours actif train de dégazer.
Donc ça signe une activité quand même.
Oui, ça signe une activité et c'est pas la première fois qu'ils ont été, c'est la première fois qu'ils ont été décrits, on va dire en Auvergne, mais je veux dire à travers le monde, c'est un type de signal qui est
exactement.
Reconnu.
C'est une signature qu'on observe sur de nombreux volcans, finalement sur la planète. Alors justement dans le Massif Central, où ont été détectés ces signatures sismiques en particulier, il y a une localisation quand même assez particulière.
Oui, alors il y a une localisation qui sera affinée dans les prochains mois, puisque pour le moment, comme je vous disais, il y a plus d'une centaine de stations qui ont été installées. On aura une localisation beaucoup plus précise lorsque les données de l'ensemble de ces stations seront traitées. Pour le moment, on a une localisation un peu approximative, mais grosso modo, ça correspond effectivement à une zone à l'aplomb de la chaîne des Puits et du centre de la chaîne des Puits, et un peu au sud du lac Pavin, dans la province du Cézallier.
Donc c'est quand même très localisé en Auvergne. Ça veut dire qu'ailleurs, on n'a pas du tout ces enregistrements-là?
Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'en a pas enregistré ailleurs. Après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec plus de stations et de meilleurs traitements des données, peut-être qu'on en découvrira sous d'autres endroits. Ça, c'est pas impossible.
Ouais. Ça a été une surprise pour vous, ça, Guillaume Boudoir, d'avoir ces signatures sismiques ou pas? Sincèrement,
non, ça a plus été une confortation, si je peux dire, dans le sens où, comme je vous le disais, je pense que tout le monde dans notre communauté était conscient qu'on était toujours dans une province volcanique active. On avait des témoins encore actuels, de toute façon, comme je vous le disais, avec ces flux thermiques et ces émissions thermominérales dans le massif et en Auvergne. Mais là, on a, disons, un autre critère qui vient cette fois mettre un point final à cette demande qu'on avait de savoir, effectivement, est-ce qu'on a toujours de l'activité magmatique, et surtout, ça apporte une réponse à où. Parce que, on avait une activité magmatique résiduelle, mais à quel endroit? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans la croûte? Est-ce que c'est très profond dans le manteau? Maintenant, on réussit, grâce à cette sismicité, à localiser une zone.
C'est ça. Voilà. Et alors, la nature même de cette activité sismique, comment on peut la caractériser? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est à bas bruit? Est-ce qu'elle est moyennement importante? Très importante? Est-ce qu'il y a un degré, justement, identifiable?
Non, pour le moment, elle est à bas bruit. Si on regarde, justement, des analogies à travers le monde, des séismes, donc longue DLP, comme ils ont été décrits dans le Massif Central, on en retrouve par exemple au Kilauea, à Hawaï, ou alors dans le Kamchatka, où il y a des volcans actifs dans l'est de la Sibérie. Mais là, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de séismes qui sont détectés.
Oui.
Nous, on est en train de parler sur une période de 3 ans d'une dizaine de séismes. Donc, on n'est pas dans le même ordre de grandeur.
C'est ça, on peut calmer nos frayeurs déjà d'emblée. La profondeur 25-35 km, c'est important justement ça aussi, cette profondeur-là?
Oui, elle est importante pour une double raison. Alors la première, c'est qu'elle correspond à une zone qui est la transition entre la croûte et le manteau.
Oui.
Et on sait que souvent les interfaces, ces zones de transition, sont des zones où le magma a tendance à s'accumuler plus facilement. C'est documenté un peu partout à travers le monde. La deuxième raison, c'est que ça vient en fait confirmer également des résultats obtenus indépendamment lorsqu'on regarde par exemple des éruptions passées. On parlait du Pavin, on parle d'autres éruptions comme la Vache et la Solace. On peut, grâce à certains outils en pétrologie, donc l'étude des roches, l'étude des minéraux, essayer d'estimer la profondeur des réservoirs magmatiques qui étaient impliqués dans ces anciennes éruptions. Mmh. Et souvent, on retombe sur des niveaux aux alentours de 25-35 km. Donc on voit que les niveaux qui ont été mobilisés par le passé sont des niveaux qui sont probablement toujours encore alimentés à l'heure actuelle.
Guillaume Boudoir, on va écouter Didier Jezekel de l'Institut de physique du Globe, interrogé par le photographe Arnaud Guérin dans le cadre de la série des volcans et des hommes sur Arte. C'était en Auvergne, évidemment.
Le risque volcanique associé au lac Pavin, il est toujours existant ?
Effectivement, il n'est pas exclu qu'il puisse se reproduire un accident. Si jamais il y a une augmentation des apports par le jeu des failles, il ne faut pas oublier que la région Auvergne, c'est une région qui est sismique aussi,
oui,
il y a eu des tremblements de terre. On peut avoir des réactivations de failles, des flux de CO2 qui augmentent. Et puis, ça pourrait charger ce fond de lac jusqu'à un stade assez dangereux.
C'est aussi pour ça que vous faites des suivis.
Et c'est pour ça qu'on fait des suivis réguliers de cette teneur.
Charger les fonds de lac, ça veut dire quoi, ça, exactement, Guillaume Boudoir ?
Charger les fonds de lac ?
Oui, c'est ce qu'il disait là-dedans.
Je ne sais pas exactement ce que
l'extrait
voulait dire par ça. Par contre, oui, je pense qu'il abordait la problématique du Pavin avec des mesures régulières, parce qu'au Pavin, il y a une problématique liée au risque, mais qui est actuelle, indépendamment de cette histoire magmatique. C'est-à-dire que le lac Pavin est un lac assez particulier, ce qu'on appelle un lac méromictique, c'est-à-dire qu'il a une stratification de ses eaux. Et les eaux les plus profondes, celles qui sont situées entre 60 et 90 mètres de profondeur, sont très enrichies en CO2 et en méthane. Et si un jour ces eaux remontaient vers la surface, on pourrait avoir un phénomène qu'on appelle une éruption limnique, c'est-à-dire une libération violente de ces gaz qui se disperseraient de manière soudaine dans l'atmosphère. Et donc il y a un aléa lié au lac Pavin qui est étudié, qui est connu.
Et qui lui aussi est pris au sérieux. Donc,
et qui est pris au sérieux. Ouais.
On parlait donc des basses fréquences tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait se transformer justement en haute fréquence, alors sans tomber dans un cours de maths, mais comment ça peut évoluer justement? Parce que c'est pas fixé en fait.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces signaux qui sont liés à du dégazage de magma. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a deux modèles pour expliquer ce magma qui se dégage, pour permettre d'introduire une réponse à votre question.
Ouais.
C'est qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si ce magma dégaze, mais que c'est du magma qui est là depuis à peu près 7000 ans, depuis les dernières éruptions. C'est-à-dire c'est un magma qui refroidit, et en refroidissant, il dégaze. Ou est-ce que c'est du magma assez récent, alors récent, plusieurs dizaines d'années, ou peut-être une centaine, ça on ne peut pas savoir, donc du magma plutôt nouveau qui arrive. Et vous voyez que la problématique n'est pas la même.
Ouais.
D'accord. Donc pour l'instant, on en est à ce niveau-là. On a du magma en profondeur, on essaye de savoir est-ce que c'est de l'ancien ou est-ce que c'est du nouveau.
Et comment vous pourrez le savoir ?
Ah bah, ça c'est... Il y a des pistes qui sont actuellement en cours d'investigation, notamment par exemple la signature des gaz en surface. La signature des gaz, c'est quelque chose qui peut nous permettre de calculer. On sait que les gaz peuvent évoluer au cours du temps, donc on peut réussir à estimer par exemple l'âge des dernières injections magmatiques grâce à la signature des émissions gazeuses actuelles.
Donc ça veut dire que le refroidissement d'un magma, ça peut prendre énormément de temps.
Ah oui,
parce que là, si on est dans le scénario du magma du lac Pavin, on est à 7000 ans. Ça pourrait durer encore combien de temps alors ?
Alors combien de temps, ça je peux pas vous le dire, mais ça dépend de beaucoup de paramètres, et un des paramètres qui est important, c'est la quantité de magma qui est impliquée. Et on sait qu'effectivement sous la chaîne des puits, enfin le modèle actuel accepté d'alimentation magmatique sous la chaîne des puits, c'est d'avoir une espèce de chenal ou une grande poche de magma qui serait au niveau justement à cette interface croûte-manteau qui était impliquée dans les derniers cycles éruptifs. Donc la quantité de magma à l'heure actuelle, on n'en a pas vraiment d'idée, on ne sait pas quel volume il y a. On sait que dans le passé, il y a eu des volumes assez importants qui ont été injectés. Donc après, il y a une dynamique pour refroidir ces grands volumes qui nécessitent du temps.
Guillaume Boudoir, vous en tant que signataire donc de cette étude, qu'est-ce que vous considérez comme étant le plus solide dans cet article finalement, en tout cas le fait scientifique qui résistera même si l'interprétation pourra changer dans 10 ans en tout cas?
Le fait scientifique, on va dire le résultat en soi, c'est-à-dire la détection de ces séismes DLP, et donc le fait de pouvoir les catégoriser comme des DLP, c'est quelque chose qui me semble assez irréfutable à l'heure actuelle. Après, je vous dis, il y a une part d'incertitude sur l'interprétation du signal, c'est-à-dire du dégazage magmatique, mais voilà, du magma ancien, du magma récent. Tout ça, par contre, oui, j'espère que dans les prochaines années, on aura des réponses beaucoup plus précises à apporter.
Qu'est-ce qu'on peut dire du risque réel? Qu'est-ce qu'on doit s'interdire de dire, histoire de ne pas fabriquer de fausses alertes? C'est important, parce que ça concerne évidemment la population aussi de cette région. C'est ce que nous verrons dans un instant avec vous, Guillaume Boudoir, et puis vous répondrez au sujet de ces volcans de Verne, aux questions, aux messages et aux messages vocaux qui arrivent sur l'application Radio France. A tout de suite.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce sont des répliques de phénomènes qui ont joué il y a des dizaines de millions d'années, quand ils ont atteint leur paroxysme, et ça se calme tout doucement au cours des millions d'années. Et de temps en temps, on a encore de ces secousses qui peuvent être assez violentes, comme les celles-ci, parce que 3,5, c'est pour la France, c'est déjà un tremblement de terre qui vaut la peine d'être noté.
Vous pensez que les volcans d'Auvergne vont un jour se réveiller ?
Oh oui, j'en suis convaincu, moi. La chaîne des petits puits, là, à l'ouest de Clermont-Ferrand, si elle ne se réveillait pas...
Dans combien de temps, c'est difficile à dire ?
Ah, c'est totalement impossible à dire. C'est entre la semaine prochaine et dans 1000 ans, quoi.
Voilà, ça c'est Haroun Tazieff en 1983, au micro de France 3 Auvergne, Guillaume Boudoir. Je vous voyais réagir justement au propos d'Haroun Tazieff. Pourquoi est-ce que vous souriez en l'écoutant ?
Non, parce que je m'attendais à ce que vous me posiez la même question, c'est pour
alors
ça.
C'est prévu pour quand, hein, c'est ça ? Donc la semaine prochaine ou dans 3000 ans ?
Eh ben, je vais vous faire exactement la même réponse que M. Tazieff, c'est-à-dire qu'on...
On n'en sait rien ?
On n'en sait rien. Alors on sait que les volcans d'Auvergne, et tout du moins ceux probablement de la chaîne des Puys ou dans la zone du Mont d'Or, se réveilleront un jour. Ça serait étonnant que ça ne se réveille pas, puisque effectivement, actuellement, comme je vous disais, on est dans une pause qui dure depuis à peu près 7000 ans. Mais par le passé, on a eu des périodes sans éruption pendant plusieurs millénaires. Donc, tout est là, on va dire, géodynamiquement pour qu'un jour, l'activité reprenne. Par contre, est-ce que ça sera dans 3 ans, dans 30 ans ou dans 3000 ans ?
Ouais.
Ça, malheureusement, on ne peut pas le dire aujourd'hui.
Donc ça, vraiment, il faut rester raisonnable là-dessus. Hein, quand on parle de surveillance, justement, et de ce que la science peut promettre, on ne peut rien dire sur le réveil des volcans d'Auvergne pour l'instant.
Non, parce que en fait,
tout cas, sur l'échéance.
Oui, sur l'échéance, mais je veux dire, c'est pas inhérent en fait seulement à la chaîne des Puys. On le voit assez fréquemment, mais avec des volcans qui sont en éruption assez fréquemment. Donner une date exacte de début et de fin d'éruption, c'est très compliqué, même sur des volcans qui ont une activité éruptive importante.
Oui.
Sur des provinces quiescentes, dormantes, comme c'est le cas de la chaîne des Puys, c'est peut-être encore plus compliqué, puisqu'en fait, on n'a pas de passif dessus, qui a été enregistré par le passé, par les réseaux actuels. On ne sait pas forcément à quoi on va s'attendre sur les réseaux. Donc oui, il y a une problématique encore plus importante sur ce genre de province.
Sauf que vous m'inquiétez quand vous dites que vous répondez la même chose qu'Haroun Tazieff, parce que lui dit, ça peut être la semaine prochaine, comme dans très longtemps. Donc si c'est vraiment la semaine prochaine, ça pose beaucoup plus de problèmes, là.
Alors,
quand même.
J'ai précisé quand même, je n'ai pas dit la semaine prochaine. Mais non, disons qu'il y a des réseaux qui sont mis en place. Ce sont des réseaux nationaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observatoire volcanologique à proprement parler, comme ça peut être le cas dans les territoires outre-mer, hein, sur les volcans français. Par contre, il y a des réseaux nationaux sismiques, il y a des réseaux nationaux qui vont mesurer les déformations. Donc on a des capteurs qui sont capables d'enregistrer des signaux. La chose, on va dire, il y a deux points par contre qui sont importants à garder en tête, c'est que, comme je vous disais, quelle serait l'amplitude des modifications qui pourraient être enregistrées par ces réseaux en cas de réactivation ? Ça, on n'en a pas encore une idée claire. Donc on travaille avec des volcans analogues à travers le monde pour essayer de voir ce qu'on pourrait détecter. Et puis, il y a aussi un besoin, on va dire, de structuration dessus, dans le sens où, comme je vous dis, c'est des réseaux nationaux. Maintenant, il va falloir peut-être être un peu plus attentif aux signaux qui ressortent sur ces stations.
Alors justement, c'est quoi le bon message à faire passer, justement, à la lumière de la science et de vos travaux ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui ne change pas du tout ? Et comment on communique là-dessus, ne serait-ce que pour la population ?
Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période, on est un peu à la croisée des chemins, on est dans une période vraiment stimulante dans notre communauté, parce que, comme je vous dis, on a mis un point final, on va dire, au fait qu'on a une idée générale de ce qui est en train de se passer dans le secteur. Alors, il y a des choses à affiner, hein, comme je vous disais, sur l'origine de ce magma, est-ce qu'il est là depuis longtemps ou pas, mais ça soulève d'autres questions. sur lesquels il va falloir que la communauté scientifique se penche, et c'est le cas, il y a beaucoup de projets et de collègues qui sont actuellement en train de travailler ou de soumettre des projets pour essayer de répondre à ces problématiques-là. Par exemple, en combien de temps le magma pourrait remonter vers la surface? Tout ça, c'est des questions qu'on...
On le sait pas encore, ça, hein.
Non, on le sait sur certaines éruptions passées. Ouais. Mais par contre, c'est des choses qui sont aujourd'hui, avec les outils qu'on a, qui sont théoriquement modélisables, ou tout du moins, on peut essayer d'apporter des éléments de réponse pour essayer d'avoir un ordre d'idée. Donc, c'est des choses sur lesquelles il va falloir se pencher dans les prochaines années, les prochaines décennies. Et puis, il y a l'autre pendant, il y a le pendant aussi plus opérationnel, où là, on se rend compte qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue opérationnel, à structurer, pour réussir à être prêt. En fait, c'est plus une histoire d'être dans la prévention
ouais.
que dans de la réaction.
Alors, justement, une question de citoyen, si un jour il y a une reprise d'activité qui devait se produire vraiment, quels sont les types de signaux que vous verriez par analogie avec d'autres volcans et que ben, pour l'instant on ne voit pas?
Alors, je pense que l'une des choses principales qu'on serait amené à voir, c'est considérer qu'en partant du principe que le magma à présent, actuellement en tout cas tel qu'il a été imagé, se trouve à une vingtaine, trentaine de kilomètres de profondeur, si ce magma remonte vers la surface, il va falloir qu'il se fraye un chemin. Et pour se frayer un chemin, on est dans un système, ce qu'on appelle une province monogénétique, c'est-à-dire c'est des édifices individuels, chaque éruption a donné lieu à un cône. On voit qu'on n'est pas sur un système unique comme le Piton de la Fournaise ou d'autres volcans avec des réservoirs magmatiques bien ouais. développés. Donc pour se frayer un chemin jusqu'à la surface, il va falloir fracturer.
Donc il y aura de la pression. Ouais.
Donc théoriquement, on devrait enregistrer de la sismicité, cette fois, qui migre vers la surface, et de la sismicité avec une magnitude un peu plus importante qui pourrait être théoriquement ressenti par la population. Ça, c'est ce qu'on a pu voir sur certains édifices qui se sont réveillés après des dizaines ou des centaines d'années. La Palma aux Canaries, par exemple, c'était le cas. Mayotte, ça a été la même chose. Donc c'est quelque chose auquel on peut s'attendre par analogie. Mais après, il faut toujours prendre ça avec des guillemets, parce que, comme je vous le rappelais tout à l'heure, malheureusement, on n'a aucune éruption dans le massif ouais. central, et on va dire même sur le rift ouest européen, qui n'a été surveillé avec les réseaux et les technologies actuelles.
Donc, principaux signaux, ce serait de la sismicité. Il pourrait y en avoir d'autres ou pas? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la fumée, je ne sais pas, des éruptions particulières déjà de matière?
Il pourrait y avoir de la déformation également. Ça dépend de la quantité de magma et de la profondeur du magma. Il pourrait y avoir également un changement dans la chimie des gaz qui sont ouais. échantillonnés régulièrement. Donc là, on peut le voir. On sait qu'il y a des espèces gazeuses qui dégazent à certaines profondeurs et d'autres non. Donc, c'est des signaux qui permettent de tracer les remontées de magma. Ouais.
Guillaume Boudoir, on passe aux questions. Et Benjamin qui vous demande pourquoi les volcans en France métropolitaine se trouvent uniquement en Auvergne et pas dans les autres récits montagneux.
Alors, les volcans se trouvent principalement dans le massif central parce qu'en fait, on appartient, le massif central et appartient à un ensemble qu'on appelle, donc je disais tout à l'heure, le rift ouest européen.
Oui.
C'est-à-dire que suite à la collision des Alpes, il y a à peu près il y a plusieurs dizaines de millions d'années, on a eu un phénomène qui a tiré sur la plaque. C'est-à-dire que vous avez deux plaques qui rentrent en collision les unes par rapport aux autres. Et à l'arrière, bah, en fait, ça a tiré sur la plaque et ça l'a cassé. Mm-hmm. Ça l'a fissuré, ce qu'on appelle un phénomène d'extension, un rift. Et on retrouve ça, du coup, à une distance d'à peu près 300-400 km des Alpes. Mais si on regarde à 300-400 km des Alpes sur toute l'Europe, bah, on retrouve des provinces similaires, qui ont des âges similaires. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en République tchèque, etc. Donc, on est sur cet ensemble qui a un sens, on va dire, géodynamique.
Ah ben justement, Patrice nous demande, est-ce qu'il y a des similitudes entre les volcans d'Auvergne et le supervolcan endormi Eiffel en Allemagne, à moins de 200 km de la Lorraine? Ce dernier n'est-il pas beaucoup plus problématique?
Alors, oui, très bonne remarque, effectivement. Il y a beaucoup d'analogies à faire actuellement avec la province de l'Eiffel, donc dans l'est de l'Allemagne, dont le Lahrer C, c'est cet édifice volcanique.
Ah oui, c'est Eiffel, pardon, j'ai dit Eiffel.
Eiffel. On va dire Eiffel à la française.
Eiffel.
Donc, dans l'est de l'Allemagne, qui a, c'est pareil, à peu près 300 ou 400 évents éruptifs. Hein, donc, c'est pareil, une province qu'on appelle ouais. une province monogénétique, et sous laquelle on a enregistré depuis une dizaine d'années ces fameux CISDL. C'est-à-dire que nos collègues allemands les ont détectés également sous leur province volcanique. Eux, ils ont une problématique qui est un tout petit peu différente, c'est que l'endroit où ils détectent ces séismes actuellement, ils les détectent même au sein de la croûte, donc de manière beaucoup plus superficielle.
Ouais.
Et sous un volcan qui a érupté il y a à peu près 13 000 ans et qui a émis près de 6 km cubes de magma. 6 km cubes de magma, c'est à peu près 12 fois le volume du Puy-de-Dôme. Donc une éruption ouais. vraiment très très importante.
Il est très surveillé, ce volcan Eiffel ?
Il est très surveillé par nos collègues allemands parce qu'il y a des signes justement de réactivation sous l'Eiffel.
Et il fait partie de cet arc dont vous nous parliez tout à l'heure.
Exactement. Et ça nous pousse justement à collaborer beaucoup plus à l'échelle européenne sur ces problématiques parce que les questions et les problématiques sont communes.
Je crois que nous avons un message vocal pour vous, Guillaume Boudoir.
Bonjour, La Terre au Carré. Didier, près de Bordeaux. Je m'étonne qu'on ait d'énormes connaissances de l'exploration de l'univers, du ciel, à des millions d'années-lumière, et que l'intérieur de la Terre soit si peu connu. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre ?
Très bonne question. Merci pour cette question, justement, Guillaume Boudoir.
Et oui, il y a des très grandes difficultés à aller voir ce qu'on a à l'intérieur de la Terre. Souvent, on fait l'analogie lorsqu'on en parle avec des étudiants. On a souvent une question sur, justement, la prédiction des éruptions. On leur dit, la prévention, c'est compliqué. Parce qu'on le voit sur la prévention en météorologie, c'est déjà compliqué de modéliser et de prévoir ce qu'on peut voir. Ouais. L'intérieur de la Terre, on n'y a pas accès, en fait, directement. Donc c'est très compliqué de réussir à décrire ces processus profonds.
Jean-François nous demande si les volcans d'Auvergne ne sont pas si endormis que ça. Quelle influence ça peut avoir sur la sécurité des centrales nucléaires du couloir du Rhône ou des industries chimiques de Lyon ?
Alors, on est quand même relativement loin. Je veux dire, la chaîne des puits est située à une bonne distance de Lyon. On voit que les dépôts associés à l'activité de la chaîne des puits et du massif des Monts d'Or restent quand même limités géographiquement. Par contre, il y a une question qui peut se poser vis-à-vis du Vivarais. Le Bas-Vivarais, donc en Ardèche, est une province qui est également très récente, qui appartient toujours à ce domaine-là, et qui a eu des éruptions il y a à peu près 15 000, 30 000 ans. Donc là, on peut se poser la question.
Pauline demande, qu'en est-il du massif du Cantal ? Non loin, évidemment, du massif des volcans d'Auvergne.
Alors, le massif du Cantal est une problématique un peu différente parce que déjà, c'est ce qu'on appelle un stratovolcan. Donc, c'est un édifice beaucoup plus complexe et son histoire est beaucoup plus ancienne. Il n'y a pas eu d'activité depuis plusieurs millions d'années sur le Cantal. Donc, on est sur une échelle de temps qui nous laisse croire qu'on est plutôt sur une fin d'activité que sur une période de dormance.
Guillaume Boudoir, Patrick demande, il y a quelques années, des scientifiques évoquaient la possible relation entre réchauffement climatique et réveil des volcans. Qu'en est-il de cette affaire ?
Alors oui, j'ai vu quelques études effectivement là-dessus, et c'est une histoire, alors de ce que j'ai compris effectivement, principalement sur les édifices qui ont une calotte glaciaire. Parce que vous avez une source de pression sur les édifices, et effectivement avec la fonte des glaces, vous relâchez la pression. Donc là, ça peut avoir un impact. Après, pour ce qui est des volcans du Massif Central, a priori, on n'a pas de calotte glaciaire pour le moment dans le secteur.
Nadine nous dit, j'ai beaucoup discuté avec Pierre Lavina, volcanologue et médiateur en géosciences, qui trouve que les responsables des alentours du Pavin ne prennent pas suffisamment au sérieux les risque dû au lac lui-même, risque identique à ce qui s'est passé au lac Nyos en Afrique.
Mmh. On en parlait de la problématique du lac Pavin tout à l'heure.
Ces deux lacs ont les mêmes caractéristiques ?
Oui, alors pas sur la même échelle. Le lac Nyos est beaucoup plus imposant, mais oui, le processus en question est le même. Mais là, on touche un aspect de protection civile qui est en dehors de nos prérogatives de scientifiques. Nous, on a des résultats qu'on va transmettre aux autorités publiques. Après, malheureusement, on ne peut pas voir si ces problématiques, les autorités s'en emparent ou pas. Nous, on a juste un rôle d'expertise là-dessus.
Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Boudoir, d'être venu justement d'Auvergne pour nous parler de vos volcans que vous étudiez. En tout cas, on peut dormir pour l'instant sur nos deux oreilles, tout va bien. La science fait son travail. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier, Arnaud Caillé à la technique et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission. Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de La Terre au Carré.